Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter du livre « Les villes de papier » de l'écrivaine québécoise Dominique Fortier. Publié chez les éditions Alto, le livre retrace l'histoire d'Emily Dickinson, une poétesse états-unienne du 19e siècle. Reçu ici plutôt comme un roman, « Les villes de papier » a été reçu comme un essai en France. Il a d'ailleurs remporté le prix Renaudot 2020 dans cette catégorie. J'en discute avec Juliette Chevalier et Iba Benchekroun. Vous écoutez le balado Forêt Blanche. Eh bien, bonjour Juliette Chevalier et Iba Benchekroun. Bonjour, ça va bien?
Bonjour, oui. Ça va super bien.
Alors, vous êtes toutes deux étudiantes en littérature à l'Université du Québec à Montréal. Et ça me fait un grand plaisir de parler avec vous du livre « Les villes de papier » de Dominique Fortier. Ça a été publié en 2018 chez Alto et ça a reçu en 2020 le prix Renaudot de l'essai en France. Ce qui est particulier, c'est qu'ici, ça a été reçu comme un roman, puis on va y revenir là, d'ailleurs. Mais en France, ça a été reçu apparemment comme un essai. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut absolument pas lire ce livre-là comme une biographie parce que sinon, là, j'ai l'impression qu'on va être déçu. C'est rempli d'anecdotes sur la vie d'Emily Dickinson. Emily Dickinson, c'est une poétesse qui a vécu aux États-Unis, à Amherst. C'est une ville dans le Massachusetts, aux États-Unis. Elle a vécu, Emily Dickinson, de 1830 à 1886. Donc, elle a grandi en campagne avec ses parents et son frère Austin et sa sœur Lavinia. Et il y a comme une espèce d'aura de mystère autour de cette poétesse-là. Et elle est très recluse. Il y a une seule photo d'elle à l'âge de 16 ans. Et, mais moi, je ne la connaissais pas en fait, ou je la connaissais de nom. Est-ce que vous la connaissiez avant de lire ce livre-là?
Personnellement, je la connaissais vraiment pas.
Un peu comme toi, Étienne, je la connaissais plus de nom que en tant qu'écrivaine et personne. Donc oui, ça m'a vraiment fait découvrir Emily Dickinson.
Et ce qui est très particulier de ce livre-là, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'alternance entre la vie d'Emily Dickinson et celle de Dominique Fortier, l'écrivaine. Et donc, elle va nous raconter des tranches de sa propre vie, mais des tranches de la vie d'Emily Dickinson. Donc, Dominique Fortier, c'est qui? C'est une Québécoise qui a vécu à Outremont, mais qui a aussi passé des séjours à Boston, dans l'État du Massachusetts, le même État, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Emily Dickinson a passé toute sa vie. Quel rapprochement est-ce qu'on peut faire entre la vie des deux écrivaines, Iba? J'aimerais commencer avec toi.
Personnellement, je trouvais vraiment qu'il y avait un parallélisme entre les deux personnages, donc le narrateur-personnage et le personnage principal qui était Emily Dickinson. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de similarités entre les deux, entre leurs deux vies, en fait. Premièrement, j'avais vraiment l'impression que, à travers les passages du narrateur-personnage, on avait l'impression qu'elle remarchait dans les pas de la poétesse. De ce fait-là, moi, ce que j'avais pu traduire de ça, c'est que c'était une tentative de cette dernière de comprendre sa vie, de la comprendre, d'essayer de comme mieux être capable de la connaître comme personne aussi, puisque malheureusement, elle n'est plus de son vivant. Mais aussi parce que je trouvais que Emily Dickinson vraiment reflétait l'image du titre même de l'œuvre, qui est Les villes de papier, puisque Les villes de papier, comment c'était ce que j'avais compris interprété par l'œuvre, c'est en fait c'est un être, une ville ou un objet qui finalement est pratiquement fictif puisqu'il est seulement présent dans une œuvre à l'écrit, mais quand on arrive dans la réalité, dans le monde réel, il n'est pas présent puisque c'est une sorte d'invention. Et puis cette personne-là, j'ai l'impression, avait tellement puisqu'elle n'était pas de notre vivant, du vivant de l'auteur, du narrateur personnage, c'est comme si elle ne pouvait pas vraiment la connaître aussi bien qu'elle aurait sûrement voulu le faire. Donc, elle pouvait seulement se contenter des ouvrages qu'il étudiait, des deux maisons où elle avait habité qui sont maintenant transformées en tant que musée, ou sinon de ses recueils de poésie, ou sinon de son herbier, etc., etc. Tout ce qui reste d'elle, tout ce qui vraiment subsiste d'elle. Et puis, c'est tout ce qu'on a d'elle et on peut pas vraiment, à partir de ça, c'est comme si on manque, il manque comme une source de vie, il manque quelque chose pour vraiment la connaître de façon profonde. Donc, c'est ça que j'ai à dire là-dessus.
Oui, puis tu parles de fiction, d'une part de fiction. Je le disais d'entrée de jeu, Dominique Fortier va inventer une partie de sa vie parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et elle va parler dans son livre de sa propre démarche d'écriture. Et elle va se demander, est-ce que je dois visiter les lieux d'enfance, la maison d'enfance d'Émilie, ou plutôt laisser libre cours à mon imagination? Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire comme choix, Iba?
Oui, je me rappelle encore de ce passage. À ce que j'ai compris par la suite, c'est comme si, à ma mémoire, elle me semble qu'elle laissait la question en suspens. Elle n'était pas trop sûre si elle devrait y aller ou pas. Et finalement, quand on continue à lire selon ses passages à elle, on comprend que vraiment, elle remarche dans ses pas, comme je l'avais dit, vraiment dans les villes où elle avait habité. Il me semble que par la suite, je me rappelle plus l'ordre chronologique, malheureusement, mais...
Ben non, mais c'est correct. Ben justement, elle va vouloir... Elle préfère laisser libre cours à son imagination. Puis je pense aussi, je l'entendais là, dans une entrevue à Tout le monde en parle, où est-ce qu'elle disait « J'ai préféré ne pas visiter parce que si je les visitais, j'étais un peu comme dans la prison, en tout cas, comme je devais raconter ce que j'avais vu. » Et elle préférait se garder une part d'invention, de mystère. On va revenir à cette question que j'évoquais au départ. En France, ça a été reçu comme un essai, donc avec le prix Renaudot, qui est quand même un prix assez prestigieux en France, alors qu'ici, ça a été clairement reçu comme un roman. Comment est-ce qu'on explique ça, Juliette?
Honnêtement, je pense que même moi, en le lisant, je l'ai vraiment perçu comme un roman et tout le long de ma lecture, je me demandais pourquoi est-ce considéré un essai. Ouais. Et je pense que si on peut dire que c'est en partie un essai, c'est parce que vraiment... L'autrice, Dominique Fortier, fait des liens entre sa vie à elle et la vie inventée, un peu fictive, qu'elle fait de la vie d'Emily Dickinson pour faire des réflexions plus poussées sur certains thèmes, comme celui, par exemple, de la maison, un endroit qu'on appelle « home » en anglais, mais qu'on n'a pas vraiment de mots français pour désigner ce concept-là. Donc, elle va faire des réflexions plus poussées qui ont plus... lieu dans un essai que dans un roman, ce qui, pour moi, fait que c'est plus un essai. Mais vu que c'est comme un peu la fiction de la vie d'Emily Dickinson, c'est vrai que ça peut aussi être pris comme un roman et que moi, au départ, je l'avais vraiment pris comme un roman.
Mm-hmm. Et tu parles de « home », la maison. C'est un thème qui est très important dans ce livre-là. Faut savoir qu'Emily Dickinson était quand même assez recluse, n'est-ce pas? Sa maison est importante. Surtout la deuxième moitié de sa vie, elle va être presque en confinement. Hein? On parle beaucoup de confinement aujourd'hui. Bien, Emily Dickinson, elle connaissait ça. Donc, ça a d'abord été sa ville, ensuite son jardin et finalement sa chambre, sa maison. Est-ce qu'elle aimait passer du temps avec des gens ou au contraire, elle aimait plus se retrouver seule?
Je pense qu'elle préférait vraiment se retrouver seule. Comme on voit, elle voulait même elle-même devenir un être de papier, puis le seul rapport qu'elle entretenait avec les autres êtres humains, c'était quand elle se créait elle-même des êtres de papier, comme un homme de papier. Oui. Elle préférait vraiment être dans sa solitude et aussi dans son imaginaire, dans son lieu de création qui était sa chambre, mais qui était aussi sa fenêtre, tout ce qu'elle voyait à travers sa fenêtre et qu'elle n'avait même pas besoin de côtoyer le vrai monde pour y accéder dans son imaginaire.
Ben moi, j'avais l'impression qu'elle s'est enfermée parce que durant toute sa vie, c'est comme si elle se sentait un peu différente. Elle n'était pas comme les autres. Les autres vraiment, vraiment prenaient les rôles que la société leur donnait, vraiment les prenaient à cœur, les vraiment agissaient en conséquence, vraiment selon ce que la société voulait qu'ils fassent chacun. Autant la femme, qu'on l'a vu souvent dans l'œuvre, que l'homme aussi. Donc vraiment, surtout au niveau de conditions de femme, c'est comme si ça l'enfermait, tu sais, depuis le début, depuis qu'elle est enfant, ça l'enfermait beaucoup. Ça la transformait d'une façon qu'en une personne qu'elle ne voulait pas être. Donc, j'ai l'impression qu'elle s'est dit « Je préfère m'enfermer dans mon monde à moi, dans la poésie, dans mon imagination, dans qu'est-ce que je peux créer, dans qu'est-ce que je veux créer, dans le monde que je veux vivre. Oui. » Et puis, c'est tout ce qui me suffit, finalement. C'est l'impression que j'ai eue personnellement.
Oui, puis en parlant de la condition de la femme, du rôle traditionnel de la femme au 19e siècle, on dirait que Emily Dickinson se pose en... Exactement. Elle est indocile à ça. Par exemple, avec la religion, elle va être au pensionnat et elle va refuser de croire. Elle va refuser l'idée d'un Dieu tel qu'il lui est présenté. Elle va se tenir debout, littéralement, dans ce livre-là. Je trouvais qu'il y avait une grande part d'autodétermination dès son jeune âge. Qu'est-ce que tu penses de ça, Juliette, de la condition de la femme qui est évoquée dans ce livre-là?
J'ai trouvé ça super intéressant. C'était un peu dispersé dans l'essai en des petits commentaires qui voulaient tout dire. Plein de passages qui expliquaient un peu la relation entre être femme et être écrivaine ou être écrivain, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'écrivaine comme dans le sens du mot, là. Il y avait un passage où est-ce que on voit Émilie qui est menstruée pour la première fois et qu'elle pense qu'elle est malade et sa mère lui dit non, c'est normal, tu vas être menstruée une fois par mois. Et qu'Émilie se dit ben, quelques jours par mois, je serai une femme et le reste du temps, j'écrirai. Comme pour représenter à quel point écrire et être femme à cette époque-là étaient incompatibles. Et un peu cette idée-là de l'incompatibilité à l'époque entre femme et écrivaine revient quelques fois. Et il y a même aussi une sorte de métaphore entre les écrivaines qu'on va dire qu'elles sont toutes sœurs, non par le sang, mais par leur statut de femme, à la fois de femme et d'écrivaine. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et aussi par rapport à la religion, c'est sûr que ça ramène aussi cette idée-là de qu'elle se tient debout.
Oui, elle se tient debout et outre ce thème-là, on retrouve des thèmes sur la vie, la naissance, la mort, la beauté de la nature, l'écriture. Il y a beaucoup de thèmes romantiques. Est-ce qu'il y a du lyrisme, Iba, dans ce
Ben,
livre-là?
je serais pas mal de cet avis-là, pour la raison étant, comme tu l'as dit, les thèmes de la vie et de la mort sont vraiment récurrents dans l'œuvre. Par exemple, par rapport à la mort, on va vraiment beaucoup parler de cadavres, de maladies létales que les gens vivent à cette époque, où beaucoup d'enfants meurent très jeunes, de façon vraiment des maladies qui tuent autant les adultes que les enfants. On parle aussi beaucoup de la naissance de la vie. Par exemple, dans un passage, je me rappelle, elle voyait à travers la fenêtre pendant que un écrivain parlait à un auditoire de jeunes filles étudiantes dans un pensionnat, si je me rappelle bien. Ben, en fait, le monsieur regardait à travers la fenêtre pour regarder son propre reflet, puisqu'il, en fait, on avait l'impression qu'il se parlait pratiquement à lui-même, alors qu'elle, elle regardait à travers la fenêtre parce qu'elle voyait un beau petit nid avec des beaux petits oisillons à l'intérieur, qui est encore tout bébé. Et vraiment, c'est vraiment un thème qui est très, très présent, je trouve aussi, tous ces deux thèmes-là. Sinon, on parle aussi de la fuite du temps. La fuite du temps, moi, je trouve que le passage qui venait vraiment le refléter, il y en a eu divers, mais surtout lui, je trouvais, c'était la fois où finalement elle était face à l'horloge grand-père et que elle s'interdisait d'apprendre à lire l'heure à travers les deux aiguilles. Pour elle, c'était une façon de. Moi, je l'avais interprété comme une façon de vouloir contrôler sa vie, dans le sens que si elle ne voulait pas laisser le temps lui dicter en fait sa vie, lui dicter comme vraiment les passages de sa vie, ce qu'elle devrait faire un peu. Donc, pour elle, ne pas compter, ne pas savoir quelle heure est-il, c'est un peu une façon de se laisser la liberté de faire ce qu'elle veut, puis de prendre le temps qu'elle veut. Puis, mais exemple, si elle veut que son enfance dure plus longtemps, ben elle durera plus longtemps. Et c'est justement ça aussi que le personnage, j'ai l'impression qu'elle voulait garder son enfance le plus longtemps possible. Pour elle, c'était une façon de s'éloigner des rôles. Des catégorisations un peu au niveau de la femme, de l'homme, qu'est-ce que la femme devrait faire, qu'est-ce que la femme elle est, tout ce qu'elle devrait faire, tout ce qu'elle est capable de faire surtout, et puis qu'est-ce que l'homme devrait faire, puis où il devrait aller dans la vie, etc. Donc, ça, il y avait ça beaucoup. Et sinon, je trouvais aussi que, comme tu l'as dit, la nature était assez présente avec sa passion pour son jardin, donc où elle se
Oui.
promenait.
Mais parlons-en justement. L'herbier qui revient souvent, Emily Dickinson qui cultivait les plantes rares. Justement, mon chat est en train de jouer dans mes plantes en ce moment même. Et puis donc, Emily Dickinson qui cultivait les plantes rares et faisait son herbier. Et j'ai trouvé que ce livre-là, Les villes de papier, pour moi, c'était comme un herbier et j'avais hâte de tourner la page pour voir quelles plantes soigneusement séchées j'allais trouver là. Il y avait quelque chose de vraiment très délicat, très fin dans l'écriture. Et j'aimerais que tu nous en parles, Juliette, de cette poésie dans ce livre-là, parce qu'il y a une poésie certaine.
Mais oui, un peu comme toute œuvre de littérature de poésie ou qui aborde ce sujet-là, ça a une certaine auto-réflexivité, dans le sens que auto-réflexion, on s'interroge un peu, pas on s'interroge, mais on présente une vision de la poésie, un peu comme tu as dit, Étienne, tu avais l'impression de tourner les pages et d'être toi-même dans un herbier. Et c'est comme une poésie qui vise à témoigner d'une réalité. Puis la scène que Iba a mentionnée aussi, où est-ce qu'il y a un poète qui vient enseigner la poésie, un poète célèbre, et que Emily Dickinson, elle est occupée à regarder par la fenêtre et à regarder les arbres, les oiseaux. Ça démontre vraiment que pour elle, et peut-être pour Dominique Fortier aussi, la poésie est un art qui s'apprend et qui appartient au monde réel et non dans les livres, non dans les papiers, même si elle se considère un être de papier, malgré le titre du livre qui est Ville de papier, la poésie appartient au monde et le monde est un endroit de poésie. Donc, c'est une œuvre que j'ai vraiment trouvée intéressante. C'était un univers rempli des petites choses qui nous manquent quand on est mort. Je tire ça du livre, là. J'ai pas inventé cette magnifique phrase, mais c'est ça, plein de petits coquillages, de petits filets de lumière, de notes de musique.
Oui, il y a quelque chose de très délicat et on le retrouve même dans le titre, Les villes de papier. Il y a une fragilité et la symbolique du papier se retrouve, c'est un fil conducteur dans le livre. Et quand on réfère au papier, ben, ça devient une métaphore pour une fable, une fiction, pour l'imaginaire, mais aussi, comme j'ai dit, la fragilité et même le voyage parce que l'autrice, elle va voyager. Mais pas physiquement. Elle n'aime pas le voyage physique. Elle voyage grâce à sa poésie, grâce à ses poèmes sur un bout de papier. Et ça, cette image-là, je la trouve absolument charmante. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce livre-là que vous avez plus accroché ou qui vous a un peu plus dérangé? Ou pas, ça se peut.
Mais je ne sais pas si vraiment la chose qui m'a le plus accroché dans l'histoire, mais si je continue sur ton idée de voyage, en fait, moi, la lecture en soi, je l'avais vécue comme un voyage parce que je trouvais que cet être-là, Emily Dickinson, était une être avec tellement de belles idées, avec tellement, avec une poésie si belle. Mais en fait, son être en soi, je trouvais que c'était une poésie, en fait. Parce que, de un, moi, je trouvais que par le fait qu'on apprenait à connaître la narratrice au personnage et puis aussi à intermittence avec le personnage d'Emily, je trouvais qu'on n'arrivait pas vraiment à accrocher à leur personne en soi. On n'arrivait pas vraiment à les connaître. On n'arrivait pas vraiment à connaître, exemple, leur point d'intérêt, les choses qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui vraiment les passionne dans la vie. Oui, mais vraiment, je trouvais qu'on apprenait à les connaître un peu de façon superficielle, si je peux me le permettre.
Okay.
Et puis aussi, Emily, vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré. Comme je l'ai dit, elle avait tellement des belles idées. Il y a tellement des moments dans l'histoire où je me suis dit « Wow, c'est si bien dit! » Ça nous amène vraiment à réfléchir, à voir le monde autrement. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, mais c'est si simple, si logique. Pourquoi je n'y ai pas pensé auparavant? Donc vraiment, moi, je l'avais plus comme considérée comme une espèce d'entité poétique, une entité finalement qui est une genre d'âme d'idées et de poésie plutôt qu'une personne à part entière qui a déjà existé dans la vie en soi. donc, c'est ça.
Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi, Juliette?
Oui, mais moi, c'est plus qu'est-ce qui m'a vraiment accrochée dans cette œuvre-là. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais on parlait de la maison, on a parlé de ville de papier, d'être de papier, tout ça. Moi, c'est vraiment la dualité de la maison par rapport à ça. Donc, il y a comme une maison symbolique qui unit à la fois l'autrice et le personnage d'Émilie. Donc, c'est un peu, on suit l'autrice dans sa recherche d'une maison, alors que Émilie, elle, reste au même endroit et a trouvé une maison à la fois de papier, à travers ses mots, à travers la poésie, en écrivant sur un coin de table, en faisant de la boulangerie, et entre sa maison réelle, qui était Linden, son jardin, les arbres et tout ça. Et c'est vraiment ça qui m'a accroché, c'était tous les détails Même l'autrice en parlait, la narratrice en parlait dans ses passages à elle, les petits détails qui faisaient de chaque endroit sa maison, qui n'étaient pas vraiment le lieu en tant que tel, mais plutôt l'arbre qu'elle apercevait à travers sa fenêtre ou un tableau qu'elle avait trouvé et qu'elle accrochait sur un mur. C'était vraiment ça qui faisait la maison et c'est ça que j'ai trouvé super accrocheur dans cette œuvre-là.
Ah ben c'est très beau ce que tu dis et je suis très d'accord. Et comme je l'ai dit au départ, il ne faut vraiment pas lire ce livre-là comme une biographie. Ça ne retrace pas la vie de l'auteur. Effectivement, Iba, comme tu l'as dit, on n'apprend pas tout à fait à connaître sa vie, mais en même temps, je trouve que ça capte l'essence de sa vie, c'est-à-dire la poésie puis ce besoin irrépressible d'exister par l'écriture. Je vais lire un court extrait qui m'avait touché. Elle dit « Elle-même, depuis des années, s'efforce de se transformer en créature de papier, cesser de manger, de suer, de saigner, n'être plus que celle qui lit et qui écrit. » Donc, on dirait qu'elle voulait se substituer à son propre corps et afin de mieux écrire, se consacrer tout entier à la lecture et à l'écriture. Et oui, c'est très particulier. Elle est dans sa maison, elle est recluse et elle va même rencontrer des personnes à travers derrière un rideau, finalement. Donc, il va avoir une distance avec le monde, mais une proximité avec l'écriture. Et j'aimerais dire, en terminant, bien, que c'est un tour de force pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir eu une relation de proximité avec Emily Dickinson. Et c'est paradoxal parce que elle était très solitaire. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti peut-être ce sentiment de proximité?
Ben, moi, j'avais personnellement un genre de sentiment de compassion avec elle parce que je trouvais que au niveau de sa personnalité, on va dire, je trouvais vraiment beaucoup de points en commun entre moi et elle, dans le sens que moi, je suis quelqu'un qui aime me construire comme étant différente, quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui ne veut pas être comme les autres surtout. Et puis, par le fait qu'elle, je l'imaginais en tout cas comme ça, et qu'elle, en plus, vit dans une société qui ne lui permet pas, en tout cas vraiment moins que moi, personnellement, de vivre pleinement sa personnalité, ce qu'elle veut être, la différence surtout. Vraiment, j'avais une compassion pour elle. Je me dis, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Je ne sais pas, je me serais sûrement donné la poésie comme elle, puisque c'est quelque chose que j'aime aussi faire. Mais ça aurait été difficile et j'ai beaucoup de compassion pour ce personnage-là, personnellement.
Et rapidement, Juliette, en terminant.
Oui, mais moi aussi, j'ai senti une certaine proximité, mais surtout dans son refus de passer à l'âge adulte, comme le fait qu'elle voulait rester enfant, sa curiosité du monde, de tout ce qui l'entoure, des abeilles qui bourdonnent, juste ça, c'est quelque chose auquel je me suis vraiment sentie rapprochée et qui m'a vraiment donné une belle perspective sur la vie.
Oui. Et pour ma part, là, le seul petit bémol là, que... pour répondre à ma question de tantôt, c'était par rapport à la métaphore filée du papier. J'ai trouvé ça parfois un peu trop appuyé. Au départ, ça m'enchantait. Je trouvais ça très beau, très fin. Mais à un moment donné, je trouvais que ça devenait un peu comme trop évident ou trop surappuyé. On utilisait la métaphore du papier abondamment. Mais autrement, moi, c'est vraiment un livre qui m'a réchauffé le cœur. J'ai même pleuré. J'ai trouvé ça vraiment beau. Ça m'a touché et je lisais ça comme un feu de foyer qui me réchauffait le cœur. Et bon, une petite citation en terminant. On croit que le poète n'a pas de famille, mais c'est faux, bien sûr. La poète est fille, sœur, cousine. C'est le poème qui est orphelin. Et je trouve ça... Ah! Je trouve ça d'une délicatesse.
Magnifique!
Je trouve ça d'une délicatesse. Écoutez, merci beaucoup, Iba. Merci, Juliette, de vous être joint à moi pour discuter de ce formidable livre que je vous recommande chaudement aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, « Les villes de papier » de Dominique Fortier. C'est paru en 2018 chez les éditions Alto. On va se retrouver bientôt pour une nouvelle discussion. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et au revoir.